Cinéscopie, c'est le magazine du cinéma et de la musique de film sur RTF tous les lundis. Nous sommes ensemble jusqu'aux alentours de 22h30. Cinéscopie, je vous le rappelle, est une émission proposée et animée par Laurent Craven et Chris Lucas. On est très heureux de vous retrouver. Nous avons vu des films. On vous en parlera tout à l'heure. Nous vous parlerons bien évidemment de l'actualité du support physique, DVD, Blu-ray. Et puis, de musique de film. Alors, l'actualité de la musique de film, c'est un concert qui aura lieu à Paris, me semble-t-il, le 2 avril, au Palais des Congrès, donc à Paris. Un concert hommage à Brigitte Bardot. Donc c'est un orchestre symphonique qui va jouer les musiques des films dans lesquels Brigitte Bardot a joué. Donc bah, il y aura évidemment Le Mépris, Vie privée, Viva Maria, En cas de malheur, voilà, les musiques de Michel Magne, Georges Delerue et bien d'autres. Et des invités seront présents, Elena Noguera par exemple et d'autres. Donc ça, c'est au Palais des Congrès début avril. Donc si ça vous intéresse, c'est très intéressant. Moi personnellement, si j'avais l'occasion d'y aller, je n'y manquerais pas. En plus, bah voilà, rendre hommage à une icône du 7e art comme Brigitte Bardot. Ouais, c'est formidable. Ça me fait penser d'ailleurs que Brigitte Bardot, c'est vrai que j'ai un petit peu zappé la cérémonie des Césars, mais à ce qu'on m'a dit, la page hommage à Brigitte Bardot, c'est pas très bien passé. Il y a eu apparemment des huées dans la salle. Et donc ça, je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça même un peu lamentable, pour ne rien vous cacher, parce que quand même Brigitte Bardot, c'est un monument du cinéma, qu'on le veuille ou non. C'est une icône. Elle a participé au rayonnement de la France. Et voilà. Et je trouve un petit peu dommage qu'on ait hué Brigitte Bardot, parce qu'elle a fait de mal à personne en réalité. Brigitte Bardot, au contraire, elle a fait du bien à beaucoup de personnes. Et moi, je dis voilà, bravo Brigitte Bardot, et elle va laisser une image bien sûr inoubliable dans l'histoire du cinéma. Alors, l'actualité aussi de la musique de film, c'est, je vous l'annonçais la semaine dernière, la remise des prix décernés par l'Association internationale des critiques de musique de film. Alors ça se passait également jeudi 26 février, le jour même des Césars. Et ben voilà, on a nos résultats. On avait fait des pronostics avec Laurent la semaine dernière, vous vous en souvenez. Et ces pronostics, finalement, se sont plutôt confirmés. La meilleure musique de film de l'année 2025, ça c'est sur 2025, eh bien, c'est Avatar de Feu et de Cendre qui a été récompensé, musique de Simon Franglen. Donc Avatar 3, et moi d'ailleurs c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la musique de ce film, j'en avais parlé d'ailleurs au moment de la sortie du film. Le compositeur de l'année, eh bien c'est Alexandre Desplat. C'est vrai qu'il a eu une année assez chargée, Alexandre Desplat, l'année dernière, les Aigles de la République, L'Homme qui rétrécit, Frankenstein, voilà, donc il y a eu beaucoup de choses, et il y a Jurassic World également. Le compositeur, alors ça c'est donc lui là, voilà, compositeur de l'année, mais il y a aussi un prix qui a été remis à la révélation, voilà, parce qu'il y a toujours une révélation de l'année, et c'est Cameron Moody qui, alors lui c'est un compositeur noir américain, et il a écrit la musique, je crois, d'un film pour Netflix ou une plateforme, ça s'appelle Washington, je crois, enfin, bon. Alors, après, il y a des catégories. Alors, la catégorie de la meilleure musique pour un film dramatique, c'est Nicolas Britell qui remporte le prix pour le film J. Kelly, qui est un film avec George Clooney. Meilleure musique pour une comédie, c'est Anaconda, musique signée David Fleming. Meilleure partition pour un film d'action, d'aventure, eh bien c'est Alan Silvestri qui l'emporte avec Play Dirty. C'est bien mérité d'ailleurs, hein, pour un film d'ailleurs très sympathique avec Mark Wahlberg. Dans la catégorie fantasy, science-fiction, eh bien c'est à nouveau Simon Franglen qui l'emporte avec sa musique pour Avatar. Et dans la catégorie film d'horreur, thriller, c'est Alexandre Desplat et son Frankenstein qui triomphe. Alors la meilleure musique pour un dessin animé, eh bien la récompense a été attribuée à Michael Giacchino pour Zootopie 2. Alors tu as vu Zootopie, je crois, Laurent, tu as peut-être noté la musique de Michael Giacchino en particulier sur ce dessin animé.
Bonsoir à tous, tout d'abord. Oui.
Moi, je ne l'ai pas vu. Hein, donc je...
Oui, mais enfin, je crois que dans la sélection, il me semble, j'avais opté pour quelqu'un d'autre que Michael Giacchino, parce que là, pour la partition de Zootopie 2, voilà, il y a une belle maîtrise, de ce, mais résolument un petit peu moderne quand même. Ça m'a pas trop, voilà, j'ai pas trop accroché quand même.
D'accord. Hein, voilà. Peut-être tu auras peut-être davantage accroché aux quatre fantastiques du même Giacchino.
Voilà.
Ouais. Dans la catégorie meilleure musique de film pour un documentaire, eh bien, c'est Ocean de Stephen Price. Et alors là, bon, là je connais pas, j'ai pas vu le documentaire. Bon, Stephen Price, c'est un compositeur intéressant. Dans la catégorie meilleure partition pour un film de télévision, eh bien, alors là, Cocorico. Eh oui, c'est Mathieu Alvado pour sa musique d'Astérix et Obélix, le combat des chefs. Oh, formidable. Meilleure musique pour un jeu vidéo, Cocorico à nouveau avec Lorient Testar pour sa musique pour le jeu vidéo Clair Obscur Expédition 33. Franchement, c'est chouette, ça, des Français primés. Et puis, eh ben alors, non mais Recocorico, mais c'est incroyable. Meilleure musique pour un court-métrage, c'est le court-métrage, c'est Le Secret de Martha, musique signée Romain Payot. Alors, c'est vrai que j'ai écouté du coup la musique de Romain Payot sur Internet. Et une musique symphonique est vraiment superbe. Donc j'espère qu'il y aura... Peut-être qu'il existe d'ailleurs une édition discographique. Et puis alors, dans le domaine alors, des rééditions, eh bien, c'est Dark Crystal qui l'emporte. Vous savez, cette musique de Trevor Jones qui est ressortie dans un coffret produit par La La Land Records avec carrément trois compacts disques à l'intérieur, la totalité de la musique du film de Dark Crystal, film de Jim Henson. Et enfin, meilleur réenregistrement, eh bien, c'est The Chairman de Jerry Goldsmith. On l'avait un petit peu prévu quand même, mais c'est vrai que c'est un très beau disque disponible chez Intrada Records. Voilà, Laurent, en ce qui concerne ces quelques petites nouveautés. Alors évidemment, Laurent, jeudi, c'était Les Césars. Et bien le film qui l'a emporté, c'est L'Attachement de Karine Tardieu. Film avec Valeria Bruni Tedeschi. Et voilà, bon, on en est très heureux. Alors c'est vrai que bon, c'était une cérémonie qui était assez sympathique quand même à certains moments. Même, bon, alors évidemment, Brigitte Bardot, non, moi j'en parle, c'est un peu mon coup de gueule de ce soir, mais c'est vrai qu'il y a eu des moments, quand j'ai zappé un petit peu dessus, je suis tombé notamment sur la remise du prix de la meilleure musique de film pour les Césars. Et M et Benjamin Laverne ont fait un duo tout à fait sympathique avant de remettre le prix à Arnaud Toulon pour sa musique pour le film Arco. Alors c'est vrai que c'est Arco qui repasse d'ailleurs et qui a un dessin animé écolo produit par Nathalie Portman et qu'on peut voir actuellement en salle, revoir en salle puisque je crois qu'il est ils l'ont ressorti à nouveau. Et oui, il y a eu comme ça des moments assez sympas et je trouve aussi sympa que Franck Dubosc obtienne le César du meilleur scénario original, parce qu'en fait c'est un film que j'avais beaucoup aimé. J'avais été d'ailleurs assez surpris de la part de Franck Dubosc. Est-ce que Franck Dubosc arrivera à faire au moins aussi bien que Un ours dans le Jura? L'avenir nous le dira.
Pour Arco, on avait plus ou moins pensé quand même.
On l'avait un peu pronostiqué. Dans la sélection, dans ce qui était proposé, c'était, je pense, le meilleur choix, en effet.
Alors moi, je suis assez content du César de la meilleure actrice pour Léa Drucker pour Dossier 137. Le film m'avait beaucoup plu et puis c'est vrai qu'on a quand même une excellente Léa Drucker. Où je suis tout à fait aussi d'accord parce que c'est une très très belle prestation. Parce que c'est vrai que l'acteur explose au cinéma. Hein. Il a eu une année, je dirais, dantesque. Et pas que d'ailleurs au cinéma, hein, au théâtre aussi. C'est Laurent Lafitte, avec le film La femme la plus riche du monde. Personnage excessivement exubérant. Un petit peu dans la suite en fait, de La cage aux folles, hein, qu'il a adapté au théâtre. Et alors, où je suis aussi très content parce que c'est le meilleur espoir masculin pour le film de sur un film dramatique qui s'appelle Nino avec Théodore Pellerin.
Je crois que tu en avais parlé ou...
Oui, parce que le film m'a vraiment beaucoup plu. Très très belle interprétation de cet acteur, montant. Et je dirais que là, pour le coup, voilà, c'est là aussi, c'est mérité. Et puis bon, la photographie, parce qu'il y a un très très beau noir et blanc pour ce film. Une nouvelle vague qui nous avait. Enfin, moi personnellement, ça m'avait vraiment, impressionné parce que on se croirait véritablement en termes de reconstitution dans la nouvelle vague. C'est le cas de dire.
Dire que j'ai failli le louper, mais c'est sur ton conseil que j'y suis allé. Et d'ailleurs, me semble-t-il que Richard Linklater a obtenu le César du meilleur réalisateur pour ce film.
Mais là, en fait, il collectionne quand même meilleur costume, meilleur montage aussi. Franchement. Et puis, là aussi, même si. Meilleure réalisation, oui. Mais aussi, c'est un petit peu dommage, parce que bon, c'est des récompenses, malgré tout, intéressantes. Mais qui fait un petit peu pâle figure par rapport à gérer la qualité du film. Meilleur décor et meilleur effet visuel pour L'inconnu de la Grande Arche, qui est un excellent film et que je vous invite à découvrir. Donc, après, bon, y a aussi les documentaires, le court-métrage sont récompensés au profit de Aubin des Dames et de Mort d'un acteur. Oui, et le Chant des Forêts aussi, hein,
Chant pour des Forêts,
le meilleur documentaire,
le meilleur son également, et c'est bien normal d'ailleurs, parce qu'on travaille de fou là-dessus. Hein.
Et puis bon, une récompense pour le meilleur film étranger avec Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. Et puis aussi, parce que j'avais parlé du meilleur espoir masculin, mais il y a meilleur premier film aussi de Pauline Loquès pour Nino aussi.
Ouais.
Donc voilà.
Bon, ça c'est très bien. Après, moi, j'ai toujours ce regret concernant les Césars, d'ailleurs pas seulement, ça concerne aussi les Oscars, les BAFTA, ce que vous voulez, c'est qu'on a l'impression que l'année cinématographique ne se résume qu'à 5-6 films. Voilà, c'est toujours un petit peu dommage, je trouve. C'est ce que je regrette, tu vois, parce que sorti de ces 5 films-là, on a l'impression que le reste n'existe pas, donc c'est un peu dommage.
Alors après, c'est vrai que cette cérémonie est un petit peu spéciale, parce que c'est vrai que c'est une des années, alors en parlant de 2025, où il n'y a pas eu véritablement de film, leader, véritablement leader, qui a engrangé des entrées, des entrées dans les salles. C'est vrai qu'il n'y a pas eu franchement de locomotive. Donc c'est un petit peu plus difficile. Parce que tout simplement, il n'y a pas quelques films, une poignée de films qui sont sortis du lot. On a fait un petit peu le palmarès nous en fin d'année dernière, et c'est vrai que on va dire que le choix est assez difficile, parce que franchement, des grands films, grands spectacles, il y en a pas énormément, et pour faire un palmarès de 10 films, c'est déjà assez difficile.
Exactement. Et enfin, une dernière info, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, en tout cas dans les grands médias, je crois que je ne l'ai pas entendu. Alors, c'est pas une personne de cinéma, quoique, mais voilà, un artiste vient de nous quitter, un écrivain américain, Dan Simmons, qui nous a quittés le 21 février dernier, et à l'âge, il était en 48, donc il avait 77 ans. Je crois qu'il est décédé suite à un AVC. Alors Dan Simmons, c'est un des plus grands auteurs de fantasy et de science-fiction américaine. On lui doit notamment Endymion, Hyperion, et puis alors surtout dans le registre du fantastique, L'Échiquier du Mal, qui est tout à fait incroyable. Et puis un pavé, mais vraiment formidable, qui nous raconte l'expédition Franklin dans les glaces de l'Arctique au XVIIIe siècle. Ça s'appelle Terreur. Et c'est pour ça que je dis que c'est presque un homme de cinéma, c'est parce qu'en fait, Terreur a été adapté sous la forme d'une mini-série sur une plateforme, et Dan Simmons a collaboré avec le scénariste de cette série. Moi, je vous conseille de découvrir Dan Simmons, parce que c'est un immense auteur, franchement, au moins pour moi aussi grand que Stephen King, peut-être même parfois plus grand sur certaines choses. Donc voilà, et personne ou presque n'en a parlé, et je trouve ça bien regrettable. Alors c'est... voilà. Bon, je vous conseille de lire en tout cas L'échiquier du mal, qui reste à mon avis son chef-d'œuvre. Et puis sinon, cette fameuse trilogie de science-fiction, Endymion, La chute d'Hyperion, voilà. Et puis il en a fait voilà, une terreur formidable aussi. Bon voilà, Laurent, je voulais juste signaler cette personnalité, cette figure de Dan Simmons qui est assez marquante dans le registre de la littérature fantastique et de science-fiction, et qui nous a quittés le 21 février dernier. On va commencer cette émission peut-être en musique, comme nous en avons l'habitude, Laurent.
Oui, avec le cinéma d'aventure.
Ah ben voilà, tu parlais de films grand spectacle.
Ben oui. Il s'en fait quand même assez peu aujourd'hui, hein. Ouais. Faut quand même le dire. Je regardais récemment un grand classique avec Charlton Heston, qui, au passage, hein, une petite anecdote, mais ça s'appelle Le secret des Incas.
Ah oui.
Et donc, film d'aventure.
Qui a un petit peu inspiré Indiana Jones, enfin, de quel personnage?
Voilà. Et là, pour le coup, le film a été tourné à l'époque totalement au Pérou. Aujourd'hui, c'est plus possible. Ouais. C'est ça qu'on regrette un petit peu dans le cinéma. C'est l'exotisme et le dépaysement. Voilà. Et qu'on essaye de, par moment, de mettre un petit peu de côté la digitalisation, ouais, les effets numériques, pour retrouver un semblant de chaleur et de partage aussi, voilà. Alors c'est pas que ce soit pas le cas, mais les programmes sont souvent un petit peu dramatiques, je dirais. Et on a besoin aussi d'évasion, enfin en tout cas c'est la demande du public.
C'est ça. Mais tu parlais de digitalisation, de d'IA. Il y a une polémique actuellement autour du réalisateur Darren Aronofsky, puisque il vient de réaliser un film qui s'appelle 1776 sur l'indépendance américaine, et c'est un film qui a été réalisé en grande partie avec l'IA, et là ça pique. Voilà.
Voilà, je crois que l'IA est extraordinaire. On va pas débattre ce soir parce qu'on pourrait en faire des heures, mais toujours utilisé à bon escient, et dans quelques domaines que ce soit. Et malheureusement on sait pertinemment que, eh bien, l'homme avec un grand H ne connaît pas forcément que les bonnes voies, il connaît souvent les mauvaises voies, et forcément l'utilisation pourrait être désastreuse, en tout cas dans plusieurs domaines, et en particulier dans le domaine artistique. Et donc du coup, je pense que c'est quelque chose qu'il faut extrêmement maîtriser et encadrer. On le dit beaucoup, mais voilà, je ne sais pas si ça se fera, en tout cas.
Ouais, non, ça risque de nous mettre au rancard aussi, attention.
Hein. Oui, mais il y a beaucoup de métiers qui seront touchés. C'est une certitude. Ouais. Donc, repartons dans le monde de l'aventure. Alors, avec un film de 1995. En 1995, on ne parlait pas d'intelligence artificielle, non, ou seulement dans les films de science-fiction.
Oui, dans les films de SF quand même. Ouais, oui.
Et donc là, si on parle de distribution, eh bien, nous avions Ralph Ineson, Valentine Pelka, Liam Cunningham, Julia Ormond, John Gielgud.
Ça y est, je pense avoir...
Ben Cross, ouais. Sean Connery et Richard Gere. Pour, en fait, le film First Knight, Lancelot, le premier chevalier.
Oui, c'était pas mal, ça.
Ah oui, c'est même très très bien. Hein. Mm-hmm. Belle adaptation. Film réalisé par Jerry Zucker, musique signée Jerry Goldsmith, Et on va écouter l'ouverture de ce Lancelot, qui est vraiment
superbe.
Voilà, une ouverture flamboyante. Et comme sait nous les faire Jerry Goldsmith, très très grande ouverture. Ça peut faire aussi l'ouverture d'un grand spectacle symphonique.
Ah oui.
Au cas où une idée germerait à des grandes formations sur notre hexagone, pourquoi pas. Ça serait quand même plutôt une belle première, avec donc bien sûr un bel orchestre et aussi un beau chef d'orchestre, un bon chef d'orchestre.
Ah oui, ah oui.
Allez, tout de suite, Jerry Goldsmith.
Thank you.
Oui, vidéo.
L'actualité de la vidéo, du DVD, du Blu-ray, c'est maintenant dans Cinéscopie. Vous écoutez, oui, Cinéscopie, nous sommes en direct, il est 21h et bientôt 37 minutes à la pendule de RTF. Alors, qu'est-ce qui est sorti dans vos bacs? Quels sont les films dignes d'intérêt? Alors, on va commencer par une petite série B, mais bien sympathique, qui va nous replonger dans les années 80, puisqu'il s'agit d'un film américain réalisé en 1983, Massacre au camp d'été. L'histoire d'Angela, envoyée dans un camp de vacances avec son cousin Ricky. Et Angela est une jeune fille très solitaire qui n'arrive pas à se lier d'amitié avec les autres adolescents. Mais petit à petit, toutes les personnes qui se moquent d'Angela sont assassinées. Alors c'est un slasher, et d'ailleurs ce film est le cinquième de la collection Slash Edition. L'éditeur vous propose ce film dans un combo DVD Blu-ray, accompagné d'un livret de 32 pages, de 5 photos d'exploitation, d'une planche de stickers et d'une affiche collector. Et bien voilà, c'est bien complet. Alors c'est un film réalisé par Robert Hitzik, et il y a pas mal de bonus, hein, puisque sur cette édition, donc il y a un commentaire audio du scénariste et réalisateur, commentaire audio également avec les acteurs Felissa Rose et Jonathan Thiersten, et également un documentaire rétrospectif sur le film intitulé Au bord du lac après la fête, l'héritage de Massacre au camp d'été. Il y a même un bonus inédit autour du film Judy, un court-métrage de Jeff Hayes avec Karen Fields. Et puis un reportage également sur la restauration du film. Donc voilà, une édition assez complète pour ce slasher des années 80, Massacre au camp d'été, que vous pouvez déjà vous procurer. Alors maintenant, je vous emmène en Espagne, et ça c'est grâce à Artus Film qui nous propose deux curiosités. Tout d'abord, Le Prince Enchaîné. Le Prince Enchaîné, l'histoire, c'est l'histoire du roi de Pologne, Basilio, qui a fait enchaîner son fils Segismundo dans une tour, suite à une prophétie qui prédit que le prince apporterait le désastre dans le pays et la mort du roi. Aimant malgré tout son fils, le roi ordonne sa libération, le temps de le mettre à l'épreuve. Mais ayant goûté à la liberté, Sigismond refuse de reprendre les chaînes. Voilà. Ce film est adapté en fait d'une pièce de théâtre de Pedro Calderón de la Barca, jouée pour la première fois en 1630, soit 25 ans après la publication du Don Quichotte de Miguel Cervantes. Nous sommes donc en plein âge d'or espagnol. Donc c'est l'adaptation de cette pièce de théâtre date de 1960. C'est Luis Lucia qui réalise, avec dans les rôles principaux Antonio Villar, Maria Mahor et Paul Naschy. Alors Paul Naschy qu'on connaît parce qu'il a lui-même réalisé quelques films et interprété en Espagne le rôle du loup-garou. Alors ce film, Le Prince Enchaîné, vous est proposé dans une édition Blu-ray DVD. C'est un combo. Le film a été restauré en 2K et donc c'est la meilleure façon de découvrir ce film espagnol de 1960. Restons justement avec l'Espagne, avec cette fois-ci un film intitulé Parsifal. Alors là, c'est un film qui vous est proposé dans une édition encore plus luxueuse, puisque c'est un Mediabook, Blu-ray, DVD, et accompagné d'un livret de 80 pages. Là aussi, c'est un master 2K restauré que Artus vous propose. Alors de quoi parle ce Parsifal ? Eh bien, protégé par sa mère durant toute son enfance de tout contact avec le monde, afin de demeurer pur et innocent, Parsifal, ayant malgré tout découvert le mal et le péché, parviendra au terme d'un long chemin épique et intérieur à la découverte du Graal, plénitude de vie et quiétude de l'âme. Alors c'est une adaptation de Richard Wagner, une superproduction espagnole, dotée d'un budget assez considérable pour l'époque, réalisée par le producteur-réalisateur Daniel Mangrané, assisté de Carlos Serrano de Osma, du peintre José Caballero pour les décors, et de l'actrice et danseuse française Lulmilla Cherina, ainsi que de l'acteur Gustavo Rojo. Voilà, le résultat est une alchimie de beauté, d'onirisme et d'héroïsme qui représenta l'Espagne au Festival de Cannes en 1952. Voilà, très beau film en noir et blanc, Parsifal, avec Lulmilla Cherina. C'est vraiment une curiosité. Maintenant, je vous entraîne en Italie et c'est Studio Canal qui vous propose ce film dans la collection Make My Day. Vous savez, la collection dirigée par Jean-Baptiste Torre. Il s'agit du film Pâques sanglante, un film réalisé par Giuseppe De Santis avec Raf Vallone, Lucia Bosé et Folco Lulli. Pâques sanglante dénonce l'enrichissement des propriétaires terriens aux dépens des bergers misérables. L'histoire est celle d'un soldat démobilisé de retour chez lui et qui apprend qu'il a été dépouillé de ses moutons par un riche paysan qui tente de surcroît de séduire sa fiancée. Le jeune homme prend alors le maquis et décide de punir le responsable de ses malheurs. Giuseppe De Santis dans ce film montre des êtres broyés par la dépendance économique et l'esclavage intellectuel. Et il met en majesté les femmes qui, comme dans Riz Amer, se dressent unies et solidaires face au potentat. Et voilà, c'est vraiment un très beau film de Giuseppe De Santis. Il y a un petit côté un peu mélodramatique, un peu, oui, effectivement, on le lui a reproché d'ailleurs à Giuseppe De Santis, mais à l'époque, De Santis avait opposé la nécessité de créer un cinéma populaire, de s'adresser au grand public. Il prône un cinéma où convergent en fait documentaires et romans individuels et tourné loin des studios, dans les paysages âpres et sublimes de la Chuchiari, sa terre natale. Pâques sanglante, vraiment c'est à découvrir chez Studio Canal. Vous savez que j'aime beaucoup le cinéma italien, vous n'en êtes pas vraiment surpris. Alors, une réédition, et là c'est chez BQHL, c'est une édition spéciale en Blu-ray 4K ultra haute définition, accompagnée d'un livre de 28 pages. Il s'agit des Oies Sauvages. Le lieu d'action, c'est le Zambala en Afrique centrale. Le président Limbani ayant été emprisonné à la suite d'un coup d'État, le banquier Edward Matterson craint que ses intérêts financiers soient menacés. Pour le remettre au pouvoir, il convoque le colonel Alan Faulkner, ancien militaire, qui s'entoure de trois de ses meilleurs amis, des chiens de guerre expérimentés comme lui. À l'issue d'un entraînement au Swaziland, les quatre hommes et 50 autres prennent la direction du Zambala. Mais s'ils parviennent à sortir Limbani de sa geôle, ils font bientôt face à la trahison de leur commanditaire. Et là, évidemment, ils vont être livrés à eux-mêmes, en territoire hostile, Les mercenaires ne se battent désormais plus pour l'argent, mais pour sauver leur vie. Alors c'est un film de commando, peut-être le meilleur film de commando qui ait été réalisé, dans le sillage du dernier train du Katanga, ou des canons de Navarone. Alors, dans ce film, une distribution vraiment magique, Richard Burton, Roger Moore, Richard Harris et Hardy Kruger. Voilà. Et tout ça réalisé par Andrew McLaglen. Voilà un superbe film, Les Oies Sauvages. C'est vrai que si vous avez aimé des films comme Quand les aigles attaquent, Les Douze Salopards, eh bien, si vous ne le connaissez pas, eh bien, vous aimerez Les Oies Sauvages. Alors, le film avait eu un grand succès à l'époque et une suite avait été mise en chantier, était sortie d'ailleurs Les Oies Sauvages numéro 2, qui par contre avait eu qui n'avait pas été un grand succès de artistique et un grand succès critique, c'est moins qu'on puisse dire. Restons alors là dans voilà un film dans l'actualité qui sort tout juste en Blu-ray parce qu'en fait c'est un film qui a été récompensé au César. Il s'agit de Nouvelle Vague. On vous en parlait tout à l'heure. Le film de Richard Linklater avec Guillaume Marmec, Zoé Deutsch, Aubrey Dulin, Adrien Rouillard, Antoine Besson. Un film qui nous raconte finalement Godard en train de tourner à bout de souffle et à la manière du coup de Godard dans l'esprit de Godard tournant à bout de souffle. Donc c'est une reconstitution de cette époque. On est à la fin des années 50, début des années 60. La reconstitution est vraiment superbe. Les acteurs également magiques. Un film qu'on vous conseille de découvrir. En plus, une très belle réalisation, un très beau noir et blanc. Et puis, quelques bonus intéressants dans cette édition, notamment un bonus sur les effets visuels, un portrait de Richard Linklater, et puis évidemment les anecdotes de tournage, et même la présentation de Nouvelle Vague au Festival de Cannes. Voilà donc pour ma sélection ce soir, Nouvelle Vague, voilà, ça c'est incontournable bien sûr, mais aussi Les Oies Sauvages, moi je suis un peu nostalgique de ces acteurs hein, comme Richard Burton ou Roger Moore, Pâques Sanglante, voilà, très beau film italien, et puis, petite nostalgie des années 80 avec Massacre au camp d'été, et puis on peut tenter l'aventure avec Artus Film, et ces deux films espagnols, que sont Parsifal et Le Prince Enchaîné. Voilà Laurent, je te laisse le micro. Est-ce que tu as quelques DVD, quelques films à nous proposer ce soir en complément, j'imagine?
Eh bien, pas grand-chose. Je sais pas, je crois que tu m'as pas cru.
Pas vraiment.
On va commencer avec un film... qui ne nous avait pas déplu, hein, le grand retour de Jeanne Coonan avec Jean Dujardin, Marie-Josée Croze, Daphné Richard. La musique était signée Alexandre Desplat, qui n'était pas sans m'émoustiller quelque part.
Oui, je sais que musique, j'ai bien aimé.
Une musique assez dépouillée au piano, je me rappelle. Belle mélodie. Étonnamment surpris par cette partition de départ. Donc réalisé par Jeanne Coonan, cinéma fantastique, qui sort en version cinéma et director's cut, c'est l'adaptation de L'homme qui retrécit, donc une sorte de remake, si je puis dire.
Oui, c'est l'histoire de Richard Matheson.
Voilà.
Adapté par Jack Arnold à l'époque.
Voilà, ce père de famille, sans histoire, inexplicablement réduit à quelques centimètres, se retrouve confronté à l'hostilité de son environnement domestique. C'est vrai que le film est une grande réussite parce que les moyens techniques d'aujourd'hui sont au rendez-vous, et donc ce qui fait que on peut dire que cette nouvelle adaptation de ce roman de Matheson, largement générateur d'angoisse, encore rehaussé d'ailleurs par cette bande originale, nourrie d'une narration particulièrement anxiogène, que de l'implication d'ailleurs de l'acteur Jean Dujardin, retirant la voix off de l'acteur ajouté suite à une projection test, le director's cut, moins didactique, renforce la sensation d'empathie envers son personnage, sa solitude et sa détresse. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir cette édition-là proposée par Universal. Et donc, vous pourrez découvrir en bonus eh bien, une introduction du réalisateur avec un solide making-of qui tourne aux alentours d'une quarantaine de minutes et un commentaire audio très posé du réalisateur dont je dirais l'intention était de raconter l'histoire d'un homme, non pas qui rétrécit, mais vivant dans un monde qui chaque jour s'agrandit. Donc voilà, c'est, je dirais, la vision assez singulière de Sean Coonan. Et puis, si on reste dans le registre de la science-fiction, tu vas peut-être être surpris, Chris, par ce titre-là, film de 2024. De Liang.
Ah.
Eh ben oui, il fallait un film chinois.
Oui, il fallait bien que ça arrive à un moment donné.
avec Zhang Ruyun, Yang Song et Zhu Yasmansi, pardon. Et la musique est signée Wu Yaxu. Nous sommes en 1999. C'est l'histoire de trois adolescents qui découvrent qu'un simple éternuement leur permet de se propulser 20 ans dans leur futur.
Ah oui, oui.
Et donc, ce film qui tient autant du concept que de l'expérience sensorielle, avec de vraies interrogations sur le continuum, espace-temps, la peur de grandir, la place de chacun, l'amour et l'amitié, eh bien c'est un patchwork cinématographique étonnant de bout en bout, qui mélange d'ailleurs harmonieusement animation et prise de vue réelle. Le film s'intitule Escape from the
21st Century.
Et voilà.
Ah oui, alors là, franchement, je suis très hypé parce que j'ai pas vu ce film, mais j'en ai entendu beaucoup parler.
Et voilà. Et donc, on le doit à l'éditeur Blackout qui nous le propose en DVD et en haute définition Blu-ray. Voilà.
Ça a l'air assez délirant. Hein,
quand oui, même. Oui, oui. On continue alors dans le registre du polar avec donc un film dont on n'a pas parlé dans Cinéscopie parce que je crois qu'on ne l'a pas vu. On est honnête hein, quand on voit pas les films.
Oui, oui, oui. Alors ça dépend. Vas-y voir parce que peut-être.
Non, mais je crois que tu ne l'as pas vu.
D'accord.
Film de l'année 2025, production franco-belge.
Je l'ai pas vu.
avec Adèle Exarchopoulos, Romain Duris, Gilles Lelouch, le dernier film de Cédric Jimenez.
Je confirme.
Il me semblait bien quand même. Et donc là, on est dans un Paris futuriste, divisé en trois zones étanches, attribuées selon la classe sociale de leurs habitants, et un flic désabusé et son inflexible supérieur tentent d'élucider le meurtre du concepteur d'une intelligence artificielle sur laquelle repose le travail de la police. Le film s'intitule Chien 51, et donc, on va dire que l'expression à l'américaine, hein, souvent d'ailleurs employée à tort et à travers pour souligner l'efficacité de certains films français, on la doit beaucoup à Luc Besson d'ailleurs, hein, qui a plutôt importé cette façon de filmer, là, qui semble pour une fois totalement appropriée tant le nouveau thriller du réalisateur, du déjà bien musclé Bac Nord, déploie une maestria narrative, technique et visuelle pour littéralement clouer le public à son siège. Et donc de l'obsession sécuritaire à l'urbanisation galopante, en passant par la prolifération des outils technologiques, tout est mis en œuvre sur un tempo, y compris acoustique, parfois aux limites du too much, pour assurer à l'ensemble un impact et une crédibilité maximum. Et donc, inquiétant, ultra spectaculaire, régulièrement ponctué d'images puissantes, eh bien, il y a de quoi en ressortir aussi comblé qu'un tantinet groggy. Et donc, du coup, eh bien, on essaiera de le découvrir à la vidéo chez l'éditeur Studio Canal. Voilà.
Ouais.
Et donc, bien sûr, vous avez le choix de l'embarras pour pouvoir le visionner autant en DVD qu'en Blu-ray qu'en 4K.
Oui, effectivement. Enfin voilà, il y a quand même un petit problème avec Adèle Exarchopoulos sur ce film, c'est qu'il me semble qu'elle a une frange, elle n'a pas une coupe de cheveux top top. Hein. Pas, ça me gêne un peu personnellement. Mais bon, qu'est-ce bon que
après,
vous
c'est, après c'est comme petit côté esthétique.
Oui, oui, je vois.
Alors là, vous savez, ma passion quand même pour le cinéma asiatique. On touche à l'excellence quand même. Hein. 1989, il a eu quand même, je dirais, le Hong Kong Film Award du meilleur réalisateur, film interdit au moins de 12 ans, hein, au passage. Les acteurs sont Danny Lee, Sally Ye et Chow Yun-fat.
Alors, Chow Yun-fat, oui. À peu près. Peut-être. Ah, attends, si, ça serait pas The Killer.
Et c'est The Killer. Ouais. Dixu Chuang Nguyen. c'est le titre original.
Ah oui.
Et donc, traqué par un inspecteur de la police de Hong Kong, eh bien, un tueur à gages accepte un dernier contrat pour financer l'opération d'une jeune femme qu'il a accidentellement blessée aux yeux lors d'une fusillade. Le film, est en état de grâce, hein, qui a donné d'ailleurs à John Woo sa réputation internationale de cinéaste hors du commun. C'est Metropolitan associé à HK Vidéo qui le propose dans une édition vraiment assez luxueuse. Alors c'est pas encore sorti, hein, ça sort que le 12 mars. Il y a des bonus associés à cette édition-là. Ils sont en grande partie inédits et aussi tournés, proposés en haute définition et en version originale sous-titrée. Je dirais que là, pour le coup, c'est vraiment une pépite, surtout que les commentaires audio sont tout à fait récents, c'est pas des reprises d'anciens bonus, de John Woo. Il explique un petit peu la méthode de filmer, donc les différentes séquences, comment ça a été pensé, monté. Un bel objet qui va sortir donc le 13 mars dans une superbe copie parce que on touche à l'excellence. Que du bonheur.
Et en plus, John Woo, dans ce film, rend hommage à Jean-Pierre Melville et au film Le Samouraï notamment. Donc c'est vrai que c'est un admirateur du cinéma français, John Woo, notamment de Melville. Et c'est un film, comme tu le dis, en état de grâce. Et alors, ça fait partie des films incontournables. Hein. À toute épreuve, déjà, c'était un très beau coffret. Je crois que celui-là sera, comme tu dis, vers l'excellence. Et j'espère qu'ils vont aussi publier un autre film de John Woo, qui est vraiment superbe, qui s'appelle Une balle dans la tête, parce que celui-là, il est vraiment excellent.
C'est vrai qu'en son temps, il avait été sorti en support physique.
Oui, chez HK, d'ailleurs, oui. Qu'il est sorti.
Là, par contre, pour le coup, pour l'instant, je n'ai vu rien annoncé, mais
Ça va peut-être venir.
La rentrée prochaine, ouais. Hein, parce que là, voilà, ça fait quand même beaucoup d'éditions. Peut-être le mois de juin, peut-être juste avant l'été. Mmh. Ça peut être aussi propice.
Ça pourrait être bien.
Mmh. On va terminer avec un petit éditeur, Artus. J'espère que tu n'en as pas parlé.
Ah, maintenant, ça dépend. J'ai parlé de deux films Artus.
Ce film est signé Duccio Tessari.
Ah non. J'en ai pas parlé.
Réalisé en 1974 avec Luc Miranda, Santa Berger, Umberto Orsini. La musique est signée Gianni Ferrio pour ce film qui s'intitule L'Uomo Senza Memoria dans sa version intégrale, L'Homme sans mémoire, qui est déjà paru d'ailleurs. Chez Artus, l'histoire d'un homme devenu amnésique après un accident qui cherche à redécouvrir son passé. C'est un thriller qui, en tout cas, riche en mystère, tension et suspense. Film à redécouvrir d'ailleurs, Alors peut-être certains diront que ce film aujourd'hui a un style un petit peu dépassé, un peu suranné, mais voilà, je crois que ça vaut quand même le détour.
Oui, il faut toujours remettre les films dans leur contexte, et c'est vrai qu'on est en 74, donc pour l'époque, le film quand même plutôt une bonne surprise. Puis Duccio Tesserri est un bon réalisateur, faut bien le dire, et c'est un honnête artisan du genre, parce qu'il a travaillé dans pas mal de genres, il a fait des péplums, des westerns, et c'est une belle réussite. En plus, tourné dans une très jolie ville, je sais pas si c'était tourné du côté de Gênes ou Portofino, je sais plus, mais voilà, c'est assez attachant. Et puis Luc Miranda et Santa Berger sont vraiment superbes dans le film.
Et donc, les bonus sont aussi au rendez-vous chez Artus.
Ça c'est bien.
Avec une présentation fleuve du film par Olivier Père.
Ah, l'incontournable, voilà, directeur des programmes d'Arte.
Mais aussi, il y a le directeur général d'Arte France, cinéma, qui revient d'ailleurs notamment sur les carrières du réalisateur, des acteurs et une partie de l'équipe technique. Et un portrait pointu de Duccio par l'historien du cinéma Fabio Metelli, et une interview récente, riche en anecdotes, de Luc Miranda. Voilà, et donc, il y a des photos, quelques annonces.
C'est marrant parce que Luc Miranda, peut-être que toi aussi, quand je l'ai connu, c'est à travers une célèbre série française, qui était Château-Vallon.
Ben oui.
Et en fait, j'ignorais totalement la carrière italienne de Luc Miranda, parce qu'en fait, il a énormément tourné en Italie dans les années 60-70.
Voilà, je crois qu'on a fait le tour.
C'est bien.
On termine avec un petit thriller.
Allez, pour la route.
À la française.
Oui.
À la française. C'est Arcades Éditions qui nous le propose. Je me rappelle de ce film, 1985. Film avec le regretté Bernard-Pierre Donadieu, Fanny Bestien et l'acteur principal qui n'est autre
que Jean-Paul Belmondo. Non, pas du tout.
Non, Richard Berry,
oui.
Et film réalisé par Gilles Béat. Voilà.
C'est Rue Barbare.
Pas du tout.
Non. Non, c'est Les Longs Manteaux.
Oui.
Décidément.
Mais c'est pas Les Longs Manteaux non plus. non, c'est le film s'intitule Urgence.
Voilà. Ah, mais j'ai pas vu.
Alors, c'est l'histoire d'une jeune femme qui cherche de l'aide auprès d'un journaliste après qu'un flic véreux pro-nazi qui a tué donc son frère la traque sans relâche pour l'éliminer. Et donc, c'est entre une course-poursuite quasi ininterrompue pendant une bonne moitié du film, un combat musclé au sein d'un appartement, une rixe avec une bande de loubards prêts à en découdre, et une échauffourée lors d'un concert. Richard Berry donne de sa personne dans ce thriller sur fond d'attentats fascistes qui ne laissent guère de répit à ses personnages. C'est assez exceptionnel de voir Richard Berry.
Oui, il a fait quelques polars, le Grand Pardon, des choses comme ça.
Oui, mais là aussi tonique.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est marrant parce que là, actuellement, il y a dans la collection les années 80, là, je ne sais plus comment c'est chez quel éditeur, il y a pas mal de polars qui sortent, style L'Indique et des choses comme ça. On en reparlera peut-être d'ailleurs.
Oui, L'Indique, un excellent film.
Avec Daniel Auteuil.
Oui. Peut-être d'ailleurs, le film est assez important dans la carrière de Daniel Auteuil, même si c'est un petit film. Mais je crois que si ma mémoire est bonne, c'est le film qui a articulé sa carrière entre la comédie, c'est-à-dire avec l'équipe du Splendide, et cette carrière solo que l'on connaît tous aujourd'hui. Et donc je crois que c'est un des premiers films sérieux que l'acteur a joué et qui en fait l'a orienté après vers les grands rôles. Du cinéma français.
Et ce qui est assez marrant aussi, c'est que dans ce film, L'Indique, il y a un autre acteur catalogué comédie, c'est Thierry Lhermitte, en fait.
Oui.
Donc, Et puis la femme fatale du film, c'est Pascal Rocard aussi. Un beau trio. Et je me souviens aussi de la très belle musique de Michel Magne sur ce film, L'Indique.
Ouais, ouais. Magnifique.
Donc, voilà. Bon, eh bien, on va faire une pause musicale avant de vous parler des films que nous avons vus. On va en faire la chronique dans quelques instants. Et je me tourne vers Laurent, le maître des platines. Qu'est-ce que tu nous proposes ?
Eh bien, là, un inédit.
Ah. Ni plus ni moins qu'un inédit.
Un inédit. Formidable. Ouais. La musique d'un film. Alors, ça va te surprendre. Parce
oui,
que je crois
bah,
que tu,
oui,
je crois que tu n'apprécies pas trop le compositeur.
Enfin, attention, je crains le pire.
Film de 1998. Un film. Un western. Alors, c'est étonnamment une excellente surprise, parce que déjà, quand on voit le réalisateur, on ne s'attend pas du tout à ce projet-là, mais bon, pourquoi pas. Et donc, à la distribution, nous avons Will Casclo, Craig Carter.
Il aime bien, il est taquin. Hein, Attends, mais on va trouver, t'inquiète pas, on va trouver.
Cole Hauser. Sam Elliott, ça se précise.
Ça se précise, attention. Ouais.
Nous avons Patricia Arquette, Billy Crudup. Allez, on continue. Woody Harrelson.
Ouais.
Et allez, l'actrice principale, Penelope Cruz.
Alors attends. Là, je sèche à d'un coup. Woody Harrelson, Cruz, c'est pas Bandidas, non, c'est pas ça.
Pas du tout.
Non, pas du tout. Non, alors là, non, mais, non, je donne ma langue au chat, tout d'un coup, ça ne me revient pas.
Alors, le réalisateur, c'est Stephen Frears.
Oh, attends, c'est si. Non, mais. Ah là 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 là. Non, ça ne va pas revenir.
On est en 98. Vraiment, le film est vraiment très intéressant. Ça s'appelle The Hilo Country.
Ah oui, oui.
Musique signée Carter Burwell.
Oui.
Peut-être une de ses plus belles musiques de sa carrière. Un registre où on ne l'attendait pas du tout. Enfin, on n'attendait pas de principe. Hein. Mmh. Ce compositeur-là, je pense qu'il y avait un tas d'autres compositeurs qui étaient peut-être mieux armés dans ce registre. Et là, on va écouter. Eh bien, un extrait qui s'intitule On to California, qui regroupe un petit peu, je dirais, quelques thèmes, en fait, de la bande originale. Le seul regret, c'est qu'il n'existe pas, je dirais, la partition intégrale, mais qu'une seule partie de cette partition qui est vraiment assez magistrale. Donc, on va écouter cela, et ça dure à peu près un petit peu plus de 4 minutes. Et on se retrouve juste après pour parler des films bien de la semaine, forcément. Allez, The Hilo Country, Carter Burwell. Les films de la semaine, ce soir...
Hurlevent avec Margot Robbie et Jacob Elordi, Le gâteau du président et à pied d'œuvre. Faire un petit lapsus avec à toute épreuve pour ne rien vous cacher, mais à pied d'œuvre, le film avec Bastien Bouillon. Alors, on va commencer avec Hurlevent qui est donc une nouvelle adaptation des Hauts de Hurlevent de Charlotte Brontë. Les Hauts de Hurlevent qui avaient fait l'objet d'une très belle adaptation de William Wyler dans les années 30 avec Laurence Olivier et Merle Oberon. Et là, c'est le couple Margot Robbie et Jacob Elordi qui prennent la relève dans ce film. Dans ce film relativement long puisqu'il dure quand même 2h15. Hein, voilà. Alors comment, la question qu'on pouvait se poser, c'est évidemment comment à nouveau aborder ce chef-d'œuvre de Charlotte Brontë. Comment l'adapter au cinéma une nouvelle fois, parce que ça avait déjà été fait plusieurs fois, il y avait plusieurs adaptations. Et voilà, donc là, on a une nouvelle version, voilà, qui se veut peut-être un petit peu plus jeune, en quelque sorte, notamment un peu... Alors, la façon dont la graphie du générique, d'ailleurs, la police de caractère, m'a fait penser à un film de Baz Luhrmann. Je me suis dit, tiens, c'est une adaptation réalisée par Baz Luhrmann. Pas du tout. Mais peut-être qu'ils ont voulu faire un peu à la manière d'eux, d'une certaine façon. D'abord parce que c'est vrai que la bande-son est enrichie de quelques chansons tout à fait contemporaines, hein, que ce soit dans la façon de chanter, l'instrumentation, les mélodies. Donc il y a un côté... Alors, d'ailleurs, j'ai eu un petit peu peur. Je me suis dit, peut-être que finalement, ils vont monter ça un peu clip. Ben, pas tant que ça, finalement. Et heureusement. Par contre, alors, c'est vrai que moi, ces chansons un peu pop, tout ça, ça m'a... Franchement, j'ai pas trouvé d'intérêt à cela. Parce que l'histoire en elle-même est suffisamment forte. Pourquoi essayer, alors, peut-être de rajeunir le public? Oui, pourquoi pas? C'est vrai que dans la salle, il y avait des jeunes filles, voilà, des ados. Bon, très bien. Je pense que c'est le couple, hein, Margot Robbie et Jacob Elordi, qui font venir un petit peu ce public. Bon, très bien, d'ailleurs. Et puisqu'on parle de ces deux acteurs, et bah, finalement, ils s'en sortent plutôt pas mal. Franchement, Margot Robbie, moi, j'ai trouvé plutôt convaincante. Jacob Elordi aussi, en plus, évidemment, dans le rôle d'Heathcliff, bah, voilà, il est beau, ténébreux, romantique. Voilà, il fait tout à fait le taf. Même si c'est vrai que, bon, je suis pas un très grand fan de Jacob Elordi. Je l'avais quand même bien aimé aussi dans le Frankenstein de Guillermo del Toro. Ça fait que c'est l'acteur un petit peu à la mode. Il est pressenti peut-être pour succéder à Daniel Craig dans le rôle de James Bond. On verra ce qu'il en est. Donc voilà, le couple vedette de ce film, Hurlevent. Ce qui est intéressant dans le film, c'est justement son esthétique. Alors, il y a une très belle photographie et les décors, la direction artistique, hein, bon, moi j'ai pas détesté, franchement. On est dans une esthétique un peu expressionniste, avec d'énormes contrastes entre les zones d'ombre et les zones de lumière. Et dans les décors aussi, carrément, notamment la demeure de l'héroïne principale, Catherine, qui est très gothique dans l'esprit, voilà, avec des angles aigus. On se croirait dans le château, un petit peu dans un château de Dracula dans les Carpates. Il y a un côté gothique comme ça, qui est pas mal. Il y a un côté peut-être aussi Tim Burton aussi dans la façon de filmer ces décors. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Artistique, elle est intéressante. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a été tourné dans les somptueux paysages naturels du centre nord de l'Angleterre. C'était tourné, je crois, dans le Yorkshire. Voilà, très très beau paysage. On est dans les Landes, évidemment, battues par les vents. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc très très belle imagerie. Il y a vraiment de belles images. J'avais peur que la mise en scène soit un petit peu trop baroque, elle aussi un peu trop maniérée, avec énormément de mouvements d'appareils. Il y en a, c'est vrai, de temps en temps, mais finalement, je trouve que la réalisatrice arrive à rester quand même relativement sobre. Voilà. mais c'est quand même plutôt bien cadré. Le début du film aussi nous met dans l'ambiance. Le film commence avec des bruits suggestifs. On pense que on va assister à une relation sexuelle, en fait, et en fait pas du tout. On assiste, le premier plan du film, en fait, c'est une pendaison. Et ça, c'est assez intéressant parce que le film va jouer constamment sur l'ambiguïté et à la fois sur les pulsions de sexe et de mort. Voilà, donc là, le film, justement, appuie pas mal. Il y a une charge, on va dire, érotique, peut-être plus forte dans cette adaptation que dans les autres. Voilà, bon... On peut ne pas aimer le côté décoratif du film. C'est vrai que moi, pendant la projection, c'est ce que je me suis dit. Je me dis, c'est peut-être un peu chargé quand même tout ça. C'est un peu trop décoratif, un peu trop baroque, et peut-être ça ne plaira pas effectivement à tout le monde. Donc, c'est vrai que quand je suis sorti du film, je me suis dit, bah finalement, c'est pas si mal que ça, parce que les critiques, j'avais entendu des critiques qui sont pas très positives sur ce film, mais finalement, c'est une adaptation qui se tient, et je trouve personnellement. Parce que bon, il y a quand même comme l'histoire originale, bien sûr. Les acteurs font plutôt le taf, même si, à mon avis, il y a 2-3 erreurs de casting, voilà, pour d'autres personnages. Mais dans l'ensemble, on peut aller voir sur le vent. Ça tient la route. La musique d'Anthony Willis, elle est quand même pas trop mal dans l'ensemble, notamment les parties plus traditionnelles, plus acoustiques, avec les violoncelles, c'est bien. Alors dès qu'effectivement il en rajoute, il met une instrumentation un peu plus moderne, voilà, qui veut faire un petit peu plus voilà, d'aujourd'hui en quelque sorte, moi je suis un peu moins convaincu, mais globalement vous pouvez aller voir le film. Franchement, Hurlevent, ça tient la route. Voilà. Après, c'est la direction artistique du film. Ça va vous plaire ou pas. Voilà. C'est les goûts et les couleurs. Voilà. Après ce Hurlevent et après Margot Robbie, il faut dire que je suis un petit faible pour Margot Robbie. Je l'avoue. Hein. Voilà. On va pas se le cacher.
Je crois que tu n'es pas le seul. Hein.
Oui. Eh bien, on va se diriger vers le cinéma français, avec tout d'abord peut-être alors à pied d'œuvre ou alors je sais pas, je sais pas pourquoi tu veux commencer, Laurent.
Allez, allons-y pour à pied d'œuvre, peu importe. Film de Valérie Donzelli avec Sébastien Bouillon, Virginie Ledoyen, Valérie de Donzelli. Dans à pied d'œuvre, eh bien. Le photographe Franck Courtès racontait la trajectoire qu'il avait empruntée après avoir décidé de tout abandonner pour se consacrer à la littérature. Une vie faite de petits boulots, sous-payés, et conquis de hautes luttes. Au fil des annonces parcourues et parues sur une plateforme devenue tout à la fois sa bouée et son bourreau, c'est ce long glissement vers la précarité que raconte brillamment Valérie Donzelli, primée pour son adaptation, co-signée avec Gilles Marchand à la Mostra. Et donc sa réalisation, longtemps traversée d'effets pop ludiques et malicieux, hein, de La Reine des Pommes à Notre-Dame, fait ici fi de toute floriture. Trouvant d'ailleurs le bon ton et la bonne distance pour éviter le misérabilisme, elle épouse le jusqu'au boutisme tranquille d'un personnage dans la peau duquel Bastien Bouillon impressionne par sa capacité à se réinventer comme acteur en s'abandonnant d'ailleurs à un rôle dénué du moindre moment spectaculaire. Je dirais le minimalisme au rang d'art. C'est vrai que, alors, je suis peut-être un petit peu partial, mais j'adore Bastien Bouillon parce que je trouve que voilà, il renaît à chaque fois, chaque personnage. C'est un acteur comme ça à le voir, qu'on avait découvert dans La Nuit du 12.
Et oui.
Un petit peu taciturne, pas trop expressif, et on le retrouve encore un petit peu dans ce genre de personnage.
On a eu récemment dans l'affaire Bojarski également.
Et l'affaire Bojarski, oui, tout à fait.
En policier, c'est
un policier, mais aussi un policier assez introverti. Ouais. Et donc, franchement, c'est des personnages qui lui vont comme un gant. Et là, pour le coup, le film est quand même assez poignant, je dirais. Et c'est là où on comprend que, eh bien, la vie peut déraper à tout moment, même par choix, et que on est toujours sur une ligne de crête et tout peut basculer en un instant. Mmh. Et là, c'est un petit peu le cas. Et franchement, le film montre en tout cas une réelle maîtrise de l'approche de son sujet. Et franchement, c'est une réussite de bout en bout. Même si voilà, le film n'est pas très gai, mais c'est par son sujet.
Oui.
Et du coup, que ce soit de l'interprétation, de l'écriture et de la réalisation, vraiment, c'est un sans faute. Voilà.
Bon, bah,
et
voilà.
D'ailleurs, ce qui explique aussi la longévité du film, parce que ça fait un petit moment qu'il est sur nos écrans. Et donc, du coup, il a toujours, en tout cas, un franc succès.
Parfait, voilà donc un film que vous ne devez pas manquer. Et puis moi, je ne sais plus jamais à la réalisatrice, en plus, elle a quand même fait de bons films. Et voilà, alors, là, on est avec deux films pas très gais, quand même, Hurlevent et puis À pied d'œuvre. Ah, ça respire pas la gaieté, quand même.
Non, mais je crois que le troisième, ça sera pas.
Alors, le troisième, justement.
Alors, le troisième, c'est un film de Amlaket Al-Kassab. Film irakien qui s'intitule Le gâteau du
président.
Du président, oui.
Un film irakien, c'est assez rare d'ailleurs.
Ah oui, c'est on peut dire que les productions irakiennes ne sont pas légion, et encore moins celles qui s'aventurent dans la région des marais au sud du pays. Et le film d'ailleurs débute les marais, et c'est vraiment. Alors, on a une photographie qui est vraiment superbe. Je tiens à le préciser. Le film est vraiment magnifique de ce point de vue-là. Et donc, là-bas, au début des années 90, marqué par la guerre du Golfe, le quotidien de Lamia, d'ordinaire bercé par le glissement de la barque de sa grand-mère sur les eaux encerclant son village, est bouleversé par un petit bout de papier. Et donc, la fillette a été tirée au sort, et cette année, elle devra confectionner le traditionnel gâteau d'anniversaire de Saddam Hussein pour la fête de l'école. Et donc, un honneur selon son professeur, un drame pour le précaire équilibre économique de son foyer. Et c'est, je dirais, un fil conducteur qui va nous expliquer la décrépitude économique du pays, gangrénée par, la corruption, le peu d'enclin d'ailleurs au travail, une société à l'abandon
qui se désagrège
sur un plan général. Et donc il y a quelque chose, je dirais, quelque part dans le film de Al-Kassab, une certaine chose du néo-réalisme italien, comme Paisa de Rossellini ou Sinussia de Vittorio De Sica. Dans cette errance à hauteur d'enfance, cette découverte des fissures d'une nation, d'un peuple et de ses institutions à travers un regard juvénile, d'ailleurs qu'ils sont grands et innocents, les yeux de la jeune Banine, Ahmad Neyef, dont le jeu instinctif porte l'élan de cette quête de l'impossible à la recherche d'ingrédients pourtant si rudimentaires, au gré des rues de Bassora tapissées de portraits de Saddam. Hassan Hadi, lui-même sud-irakien d'origine, signe un premier long métrage instinctif en forme de récit, de rapportissage déchirant. Le film est là encore pas très gai, mais il dépeint, une situation catastrophique d'un pays qui va au naufrage. D'ailleurs, l'histoire qui s'est écrite peu de temps après, nous le confirme. Donc voilà. D'ailleurs, le film débute par une image assez courte sur l'arrivée en fait d'avions militaires qui viennent bombarder la capitale irakienne, comme tout le monde sait, qui est les stigmates du début de la guerre du Golfe.
Eh bien, vous avez donc le choix de très très beaux films quand même.
Oui, parce qu'en plus c'est très éclectique.
Oui, c'est éclectique. Moi, j'avoue que le gâteau du président, que je n'ai pas encore vu, me tente bien.
Il y a une certaine curiosité aussi.
Ouais.
Mais franchement, vous laissez embarquer déjà dès les premières images par cette on va dire un bel extrait en tout cas assez contemplatif de ces marais du sud irakien qui sont assez magnifiques quand même.
Eh bien, merci Laurent pour cette sélection. Donc ce soir, Hurlevent, le Happy Hour et puis le gâteau du président. On vous parlera la semaine prochaine de Scream. On a vu, on a vu Scream, bien sûr. Hein, donc, mais je crois que le film fonctionne pas trop mal, hein, de toute façon, pour l'instant.
Oui, oui. Hein. On a vu d'autres films, comme d'ailleurs Le Son des Souvenirs.
Oui, voilà.
Et puis on vous parlera aussi peut-être de Marty Suprême.
On n'en a pas parlé de Marty Suprême.
Et je pense que non.
Et non, j'en ai pas parlé. Et pourtant, il le mérite.
Voilà, voilà. Donc, ça sera des films phares, en tout cas, de la semaine prochaine.
La semaine prochaine.
Voilà. Ouais, on n'a pas changé d'avis, d'ailleurs.
T'as bien teasé la semaine prochaine. Et en plus. Bon, il est 22h30, mon cher Laurent. Alors, peut-être une petite virgule musicale avant de vous parler des films qui vont sortir sur vos écrans ce mercredi. Voilà, quels sont les films qui arrivent, que vous allez pouvoir découvrir en salle, puisque le cinéma, c'est d'abord en salle, évidemment. Même si on le sait, les plateformes, des fois, produisent des films fort intéressants, qu'on aimerait d'ailleurs voir sur grand écran. Et donc, après ce Hello Country de Carter Burwell, vraiment, c'est de toute beauté, hein, parce que je ne connaissais pas cette BO, mais effectivement, Laurent m'a bien surpris, parce que ouais, Carter Burwell, en général, je ne suis pas très fan, mais j'avoue que là, j'ai été bien hypé par la musique.
Alors là, c'est un petit peu l'aspect nostalgique, hein, mais j'adore cette bande originale de film.
Ouais.
Film de 1979. Alors, pour vous dire, on remonte quand même, on fait un grand pas en arrière. Film réalisé par George Roy Hill. La musique est signée par Georges Delerue.
Ah. Non, mais je pensais à un autre film, donc c'est pas celui-là.
C'est le film A Little Romance, musique signée de Delerue, qui est vraiment magnifique. Mmh. Et donc, on vous invite à découvrir ce fabuleux thème. Très prime sautier, je dirais.
Voilà. Après les films graves dont nous avons parlé, ça va nous faire du bien.
Tout à fait. Hein, voilà. Et on se retrouve dans 3 minutes pour vous annoncer les sorties de la semaine. Tout de suite, Georges Delerue.
bien après Georges Delerue et sa musique pour le film de George Roy Hill, A Little Romance, il est temps bien sûr de vous parler des films, de vous donner le titre des films qui vont sortir ce mercredi dans nos salles de cinéma. Alors je me tourne vers Laurent qui a très certainement le listing sous les yeux. Alors bon, je sais déjà qu'il y a un film qui doit sortir ce mercredi, c'est le film Christie.
Oui, ok. Alors, qu'on attend avec impatience, hein, je ne vous cache pas que j'espère que nous allons l'avoir sur Limoges, parce que voilà, le film, au passage, c'est vrai, n'a pas excellemment bien marché outre-Atlantique, mais voilà, on espère qu'il aura une deuxième chance à l'Europe, ce film de David Michaud. Et donc qui débarque à partir de mercredi en sortie nationale.
Alors, en plus, moi j'avais vu Animal Kingdom de David Michaud qui était vraiment excellent.
Ouais. Et donc on y retrouve forcément Sidney Sweeney, alors un peu métamorphosée quand même, hein, parce que elle a pris quand même pas mal de kilos pour le film. Ça se passe dans le monde de la boxe, on n'en dira pas plus, mais si il sort sur Limoges, eh bien nous irons le voir. Alors ensuite nous avons film de Kamal Al-Jafari, qui sort à partir de mercredi. Nous avons aussi un film de Nicolas Charlet et Bruno Lavenne, il y a déjà pas mal de remontées publicitaires sur ce film, c'est Alter Ego avec Laurent Lafitte.
Et apparemment, qui fait une prestation encore une fois délirante.
Ouais, ouais. Et ensuite, nous avons aussi un film de Ronan Day-Lewis, qui n'est autre que le fils de Daniel Day-Lewis, Anémone, les racines du mensonge. Et on y retrouve le grand retour de son père dans ce film.
Daniel Day-Lewis.
Voilà. Ensuite, nous avons aussi un film de Maggie Gyllenhaal. Alors ce film est peut-être intéressant, The Bride. Voilà.
Ouais. Alors ça a l'air d'être une sorte de c'est la fiancée de Frankenstein, mais en mode gangster. Ça, tu vois, Bonnie and Clyde. Mais bon, je sais pas. J'ai quand même un petit doute. C'est vrai que le film, le studio a du mal à vendre ce film. C'est vrai que je sais pas. On verra.
À voir. The Cruise de Bennett Miller. Là aussi mercredi, Deux femmes et quelques hommes de Chloé Robichaud, Fantastique de Marjoline Prince, Jumpers de Daniel Chong, La maison des femmes de Mélissa Godet, Nino dans la nuit de Laurent Michel, Pédale rurale qui n'est qu'autre qu'un documentaire sur le milieu rural d'Antoine Vasquez.
Sur l'homosexualité en milieu rural.
Hein. Oui. Mmh. Et nous avons aussi Rural d'Edouard Bergeon. Une dernière chance de Fabien Grard et de Jean-Michel Lejeune. Et pour terminer, nous avons Pillion de Harry Lighton.
Voilà. Donc, qui est peut-être un... Peut-être intéressant d'ailleurs ce film de Harry Lighton. Un film où l'on retrouve Alexander Skarsgård. Voilà, cherchez le nom de l'acteur. Bon, ben voilà pour nos sorties de ce mercredi. Maintenant, mon cher Laurent, il ne nous reste plus qu'à prendre congé de nos auditeurs et nos auditrices. On leur souhaite une excellente fin de soirée à l'écoute des programmes de RTF, une très bonne semaine. Alors il va faire beau, vous allez profiter évidemment, vous allez vous balader, et puis après quand vous serez bien fatigué, vous irez dans les salles de cinéma pour découvrir de très beaux films, et on se retrouve lundi prochain.
C'est pour conclure la fin de journée, eh bien, que vaut de mieux que d'aller fréquenter les salles obscures, et puis il fait toujours un petit peu frisqué en fin de journée.
Oui, oui.
Donc voilà, allez vous réchauffer dans ces salles obscures. Allez, on vous donne rendez-vous, eh bien, cette semaine, si vous voulez, eh bien, dans les salles obscures, pour se rencontrer, c'est au gré d'une projection, pourquoi pas.
Eh oui.
Et sinon, ben, ça sera pour lundi prochain.
Vous pouvez nous demander à l'accueil, on viendra signer les autographes.
Même heure, même fréquence, et on vous souhaite une excellente semaine cinématographique. Ciao, salut. Ciao.